Renault.
Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme.
Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 euros déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous, comme tous les jours, entre midi et 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. C'est Estelle Midi. Avec moi aujourd'hui, il y a toujours Paul Lassen, journaliste RMC, Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect, Perico Légas, journaliste à Marianne, et Yaël Mellul, ancienne avocate fondatrice de Femmes et Libres. Dans un instant, près de 150 000 personnes ont changé de nom ou de prénom depuis 2022 et l'assouplissement de la loi qui concerne les changements de nom ou de prénom. Est-ce que vous comprenez ces personnes? Vous nous appelez au 3216. Tiens, si vous avez changé de nom ou de prénom, n'hésitez pas. À 14h30, RMC s'engage avec vous. Et puis à 14h40, les immanquables de Paul Lassen. Je dis une bêtise, ce sera les notaires, puisque nous sommes vendredi.
Absolument.
J'ai du mal à m'y faire. Toi, je sais que tu ne penses qu'au week-end, mais tu vois, moi, c'est pas mon cas. Ce sont les notaires à 14h40. Merci, Paul. Allez, dans un instant, donc, on va parler des prénoms et des noms.
Mais avant ça,
Paul, qu'est-ce
qui
se passe?
Aujourd'hui, c'est le jour J pour remporter jusqu'à 25 000 euros dans un peu plus de 30 minutes. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous à l'antenne et pourra donc remporter jusqu'à 26 000 euros. Vous avez encore le temps de vous inscrire en envoyant chance au 7-32-16. Chance au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Mais comment ça va se passer? Vous gratterez un ticket en direct avec toi. Oui. Il reste 10 tickets à choisir avec des sommes allant de 10 à 13 000 euros. Il y a aussi quelques tickets spéciaux qui vous permettent soit de rejouer, soit de multiplier votre gain. Voilà. Alors, pour jouer, vous vous inscrivez en envoyant chance au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Moi, j'avais un vieux copain à l'ENA qui s'appelait François Lecu. Il a transformé son nom en Le Fu. Ça a changé sa vie. Ah non, mais j'ai un couille, c'est pas possible. Hein.
Non, mais il y a une méprise. Je ne m'appelle pas couille, mais chacun.
Les visiteurs, évidemment.
Je l'avais fait pendant la pub.
Toujours efficace. Le changement du jour, le changement de nom ou de prénom facilité par la loi depuis maintenant 2 ans en France. Et Paul, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas.
Près de 150 000, 144 000, 100 exactement. Ils sont 144 000, 100 à avoir bénéficié de cette facilitation administrative grâce à cette loi promulguée il y a 2 ans. C'est ce que révèle une étude publiée hier par l'INSEE. Pour rappel, la loi Vignal, elle simplifie cette procédure en permettant d'y substituer le nom de son autre parent ou d'ajouter le nom du deuxième parent au premier, par une simple démarche en mairie, alors qu'auparavant, les personnes devaient passer devant la justice et il fallait motiver cette volonté. C'est donc un vrai succès, car c'est 3 fois plus que les 44 000 enregistrés sur une période de même durée entre mars 2021 et juillet 2022. Et ce triplement montre que la loi répondait à une demande et les personnes attendaient et ont pu satisfaire leurs souhaits. C'est ce que dit l'auteur de l'étude pour l'INSEE. Alors, ce sont principalement les jeunes qui ont entrepris cette démarche. La moitié a entre 18 et 29 ans, un quart entre 30 et 39 ans. Autre point notable, davantage de femmes, 57% que d'hommes, ont fait la démarche. Il faut savoir que dans 2/3 des cas, la personne a remplacé le nom d'un parent par le nom de l'autre et quelques 30 000 personnes ont ajouté un deuxième nom au nom de famille initial.
Très vraisemblablement, donc ça répondait à un véritable besoin, changer de nom ou de prénom, une décision lourde de sens. Tiens, avant de vous écouter au 32-16, je vais vous faire écouter ce témoignage ce matin, dans Apolline Matin, sur RMC. Témoignage de Grégoire, il s'appelle comme ça aujourd'hui, il a abandonné son ancien prénom musulman, on l'écoute.
Aujourd'hui, quand je me présente aux gens, je me présente avec le prénom que j'ai choisi, Grégoire. Qui me permet en fait de pas faire déballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Est-ce que je suis musulman? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste? Est-ce que j'ai des bouteilles de gaz dans mon coffre? Quand je passe des entretiens d'embauche, quand au bout d'une heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit « Mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine ? Ah oui, vous êtes croyant ? Vous faites le ramadan ? Et si on vous traite de bougnoule, ça vous pose des problèmes au boulot ? » Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le sida et on le cache.
Grégoire ce matin dans Apolline, matin avec Apolline de Malherbe. Près de 150 000 personnes ont changé de nom ou de prénom depuis 2022. Est-ce que vous les comprenez? Vous nous appelez au 3216. Perico Legas, original comme prénom aussi, Perico. Oui. C'est d'origine basque.
En plus, ce n'est pas l'officier d'état civil quand j'ai été déclaré.
Ouais.
Mon prénom officiel est Pierre. Même si Perico est un vrai prénom basque, mm-hmm. que j'ai mis partout ailleurs, mm-hmm. sauf la carte d'identité, parce qu'en 1959,
il n'a pas accepté.
De façon méprisante, il a dit qu'est-ce que c'est que ce prénom. On lui avait dit c'est la façon de dire Pierre en basque.
Mais on est en
et
France.
Et maintenant, il a mis Pierre lui-même, sans que voilà, mes parents ont découvert ensuite.
Est-ce que tu comprends?
Alors, je connais beaucoup de gens qui ont changé de nom ou de prénom. Ça relève vraiment de la vie privée, de raisons personnelles, intimes. Il y en a qui pourraient être. Alors, il y en a qui ont pour décide. D'abord, c'est ancien dans l'histoire. Au retour de la guerre, beaucoup de familles juives ont changé de patronyme parce que c'est disant, on n'a plus envie d'être embêté ou discriminé ou regardé autrement. Les choses ont évolué de plus. Mais au retour de la guerre, ils se sont dit, c'est notre patronyme qui nous a valu la déportation. Mmh. Donc, il y a eu beaucoup de changements de noms juifs. Généralement, d'ailleurs, en prénom. Des Martins, des Louis, et voilà, ainsi de suite. Beaucoup de nom de famille avait été francisé depuis Napoléon III, une loi de 1856. Je prends l'exemple de la famille Léotard, que ce soit le ministre ou l'acteur, c'est Léotardi. Ils ont retiré le U.
Italien.
Et voilà. Et il y a beaucoup de noms étrangers, d'origine étrangère, avec un U, un O à la fin. Et on a remplacé par un E ou rien du tout pour avoir une consonance française. Ensuite, vous avez des gens, dont le patronyme leur pose un problème. Vous avez des gens dont le patronyme évoque quelquefois des personnages de la guerre et de l'histoire qui sont pas forcément sympathiques. Je disais qu'il y avait encore des gens Hitler qui s'appelaient Hitler en Allemagne ou des prénoms de dignitaires nazis qui sont des...
Ah, ou ne serait-ce que le prénom, sont... non, mais ne serait-ce que le prénom, ouais, Adolphe, parce que oui. Moi, dans ma famille, on parle, c'est un prénom
bien sûr.
Extrêmement
grand. Mon grand-père, c'est un prénom
avant la Seconde Guerre mondiale.
Vous n'imaginez pas. Alors, ça passe inaperçu parce que le prénom est très commun. Mais, vous n'imaginez pas entre 40 et 44 le nombre d'enfants français qui ont été baptisés Philippe en hommage au maréchal Pétain et dont ils savent qu'ils ont été baptisés Philippe parce que les parents considéraient que le maréchal Pétain était une figure qu'il fallait, voilà. Et je connais effectivement des Adolphe en Espagne du temps du franquisme. Le premier ministre espagnol qui a fait la transition démocratique, Suarez, s'appelait Adolfo Suarez et ses parents l'avaient bien baptisé ainsi en hommage à Hitler. Donc tout ça est très relatif.
Yael Mellul, est-ce que tu comprends ces changements de nom, de prénom?
Ah oui, absolument. D'autant que j'ai noté que la majorité des changements de nom émanaient de femmes. Je suis pas étonnée parce que souvent le changement de nom, ça va révéler une volonté d'effacement d'un passé qui est traumatique.
Bah, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est parfois souvent, des femmes qui ont été abusées par le
voilà,
père,
exactement. Donc il y a
de la famille paternelle,
absolument,
et qui veulent se détacher de ça.
Exactement. Souvent il y a des affaires d'inceste, de violence, d'abandon aussi. Et avec la tranche d'âge de 18-29 ans, donc là où on rentre dans l'âge adulte et où on a envie, voilà, de recommencer une nouvelle vie et vraiment d'effacer ces traumatismes. Je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, c'est important de dire que la procédure existait déjà, mais elle était très lourde, en réalité.
Ouais,
il fallait un avocat, il fallait saisir le tribunal.
C'est important de le préciser, Paul. Je me souviens plus si tu l'as fait, mais que là, on a facilité la procédure. Mais attention, on peut pas faire tout et n'importe quoi, et on peut changer une seule fois.
Absolument. Et en fait, c'est ça que ça.
Non, mais ce qui amène à une certaine réflexion.
C'est important de dire que voilà, il faut quand même que ça reste une vraie démarche, une procédure, et que ce soit pas non plus simplifié à l'outrance, au point où on puisse faire n'importe quoi et changer de prénom ou de nom tous les quatre matins en fonction de ses humeurs.
Est-ce que tu comprends les gens qui font ça, Julien?
Ah, mais à titre intime, évidemment, je peux le comprendre totalement, que ce soit par histoire, que ce soit si la connotation de votre nom, par exemple, sur le... Bah là, on a mis l'extrait des visiteurs, c'est marrant, mais c'est vrai que c'est appelé le cul dans la vie de tous les jours, bah ça va pas être très simple à vivre, quoi. Surtout dans la cour de récré, quand on est gamin. Il y a certains prénoms aussi qui sont connotés socialement. Je parle beaucoup des prénoms à consonance américaine qui ont été beaucoup donnés pendant les années 90. Jordan... Kevin, Dylan, etc. Bah, il y a des gens qui...
On peut aimer ces prénoms.
Moi, je veux dire, bien sûr, bien sûr qu'on peut. Mais c'est vrai qu'ils sont connotés et je comprends qu'on n'ait pas envie de les porter toute sa vie.
Parce qu'ils sont marqués
socialement et que c'est on le voit tout de suite en fait. Un Dylan qui se présente, on va tout de suite y penser intérieurement sans le vouloir.
Je pense que certains, des Charles Hubert, certains.
Prénoms à consonance étrangère, quel qu'il soit, il y a aussi peut y avoir une volonté, de rejoindre l'identité d'un pays dans lequel on vit en francisant son prénom. On en connaît beaucoup dans l'espace médiatique. Il y a Léa Salamé, Alexandre Benalla qui s'appelait Marwan, donc il y a énormément de gens qui le font. Donc moi ça je le comprends tout à fait, et le prénom c'est quelque chose,
c'est une identité quoi, hein.
C'est l'identité, c'est quelque chose que qu'on met sur son CV, c'est comme ça que les gens vous voient en fait au jour le jour à travers, c'est la première image qu'on donne de soi peut-être.
Près de 150 000 personnes ont changé de nom et de prénom depuis 2022. Est-ce que vous les comprenez? Vous nous appelez au 3216 comme le fait Alex. Bonjour Alex.
Bonjour tout le monde.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis la Gironde, on est à Bègles, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Alex, Alexandre?
Ouais, mais Alex, ça va très bien.
Bon,
plus pour longtemps.
Ah bah justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous aimez votre prénom?
Je le déteste. Je déteste aussi mon nom de famille.
Ah.
Ouais. Pourquoi vous les détestez?
Alors, pour simplifier, on va faire un petit résumé de mes 6 premières années de vie. Mon père s'est barré, j'avais 8 mois. C'est un déserteur de la Légion étrangère, donc je suis même pas sûr que ce soit son vrai nom que je porte.
D'accord.
Ma génitrice nous a placés, ma sœur et moi, en famille d'accueil pour se débarrasser de nous quand on avait 4 ans. Okay. Et je me suis fait violer par un ami de ma mère quand j'avais 6 ans. Et ma mère m'a toujours traité de menteur. Donc mon nom et mon prénom me rappellent trop ce genre de personne.
Enfance extrêmement douloureuse, et votre prénom, votre nom sont liés à votre enfance et vous voulez passer à autre chose.
Exactement.
Et je peux vous demander votre âge, Alex?
42.
Ah oui.
Depuis combien de temps cette réflexion elle est venue à vous?
Elle a toujours été plus ou moins dans ma tête, mais avant c'était relativement compliqué. Il fallait justifier du pourquoi, du comment, et j'étais pas apte psychologiquement à en parler. C'est maintenant, j'en parle relativement librement. Je me suis servi des blagues pour me libérer de ça, on va dire, pour simplifier. Et en fait, c'est surtout que j'ai 2 enfants qui ne portent pas mon nom parce que je ne veux pas qu'ils soient rattachés à ça.
Donc vous avez donné le nom de leur mère?
Exactement.
D'accord.
Exactement. Et surtout, je veux changer de nom et de prénom parce que j'ai découvert que ma génitrice faisait régulièrement des recherches dans l'intérêt des familles en espérant rentrer en contact avec moi.
Ok. Vous avez entamé des démarches déjà?
Oui, j'ai rendez-vous début mai, là.
À la mairie. À la mairie. Ouais. Et ça va être très simple, normalement. Aujourd'hui.
Comparé à avant, ça a été simplifié. Ouais.
Alex, restez avec nous. Je voudrais que Marine Gatineau-Dupré nous rejoigne. Bonjour Marine Gatineau-Dupré.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes fondatrice porte-parole du collectif Porte Mon Nom. Et c'est vous qui êtes à l'origine de la proposition de loi qui est passée il y a 2 ans et qui a simplifié les choses. Vous avez entendu Alex à l'instant? Vous avez entendu le témoignage d'Alex ou pas?
Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai tout à fait entendu le témoignage d'Alex. Par contre, je suis assez embêtée parce que la loi permet de changer de nom de famille en prenant que le nom de la mère, du père ou les deux dans le sens souhaité. Ah. Dans son cas à lui, si j'ai bien compris, il ne veut plus porter le nom de son géniteur, ni de sa mère. Donc lui, ça ne marchera pas. Il va falloir qu'il fasse une demande auprès du garde des Sceaux.
Alex.
Eh bien, c'est magique, je constate qu'on peut se faire violer 1 million de fois, on n'est jamais protégé, on n'est jamais défendu.
Non mais ça serait une procédure judiciaire, Alex.
C'est une procédure simplifiée actuellement qui a lieu pour une filiation directe. Dans le cas de monsieur, c'est un autre parcours et c'est vraiment auprès du ministère de la Justice.
Ça reste très compliqué aujourd'hui, Marine Gatineau-Dupré?
Ça restera compliqué parce que c'est pas forcément un motif légitime. Il va falloir.
Ah bon, c'est dur. C'est dur à entendre pour Alex.
Vous trouvez que c'est cohérent ce que vous dites? Vous trouvez que c'est.
Alex, Marine Gatineau-Dupré, je le rappelle, elle est fondatrice et porte-parole du collectif Porte Mon Nom. C'est elle qui a milité pour qu'on simplifie les choses. Donc elle vous dit simplement ce qui est. C'est pas elle qui est responsable de ça, Alex. Au contraire.
En réalité, pour tout vous dire, ça a été un de mes premiers combats parce que justement, en fait, avant, on pouvait changer de nom que pour un motif légitime. Un viol, inceste, abandon, maltraitance, c'était un motif dit affectif. Il n'y avait pas de possibilité de changement de nom. C'est pour ça que cette loi, elle a eu lieu. Malheureusement, pour pas que ça soit des noms à la carte et que ça soit trop complexe, ça a été limité à la filiation directe. Ouais. Monsieur peut envoyer le dossier. C'est gratuit maintenant. depuis le début de l'année. Mmh. Il faudra juste mettre une annonce au journal officiel local et national. Il remplit le dossier, pas besoin de prendre un avocat. Il aura une réponse dans les 1 an.
On voit qu'il y a des cas particuliers. Marine Gatineau-Dupré, on voit qu'il y a encore des cas particuliers qui sont complexes, qui restent complexes. Oui. Il n'empêche, oui, la loi dont vous avez été l'initiatrice, qui est passé en 2022, qui a simplifié les choses pour changer de nom ou de prénom. Pas les deux, mais on l'a compris, mais en tout cas, enfin, pas, on peut changer n'importe quel nom.
Mais non plus.
Voilà. En tout cas, le nom. Ça marche. Ça marche. Vous devez être quand même sacrément satisfaite.
Je suis pas du tout étonnée. C'était déjà ce que j'avais constaté quand j'avais fait l'étude en 2021. Et le sondage IFOP de l'année dernière l'avait confirmé avec, en annonçant 22% des Français qui souhaitaient changer de nom de famille. Mmh. Maintenant, c'est vrai que là, ça prend. On s'était déjà vu, enfin, j'étais passée sur votre antenne il y a un an, il y avait eu 70 000 changements de nom de famille. Là, on en est à 144 en moins d'un an après. Donc, au final, oui, ça prend une accélération.
Comment vous l'expliquez?
Il y avait une attente, comme je vous disais, tout ce qui était motif dit affectif, c'était insupportable à vivre pour les personnes qui voulaient se débarrasser d'un nom trop difficile à porter, rappelant une histoire trop douloureuse. Ces personnes-là se sont engouffrées directement avec la possibilité de coffrer cette loi. Et je reçois encore énormément de témoignages et de demandes autour de ça. Donc ça va continuer de toute façon.
Je vous pose une dernière question. Tiens, c'est ma compagne qui m'envoie un SMS à l'instant, qui nous écoute et qui réagit au témoignage d'Alex, qui était fort. On comprend, c'est douloureux, très douloureux pour lui. Est-ce qu'il pourrait pas se marier, prendre le nom de sa femme, future femme?
Oui, il peut. Ce sera un nom d'usage que les hommes peuvent prendre en nom d'usage, le nom de leur femme. Ça peut être.
Ouais, mais officiellement, il gardera toujours son nom.
Exactement.
Ah ouais, donc il faut vraiment qu'il aille en justice. Merci beaucoup Marine Gatineau-Dupré d'avoir été avec nous, fondatrice et porte-parole du collectif Porte mon nom. On retourne au 32-16 et on va rejoindre Nanou qui est avec nous. Bonjour Nanou.
Oui, bonjour.
Nanou, merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Meurthe-et-Moselle à Nancy.
C'est ça, moi aussi je suis honorée du coup parce qu'on vous écoute vraiment
tous les jours. Ah bah c'est gentil Nanou. Nanou, c'est votre vrai prénom, hein?
C'est pas un diminutif,
c'est joli,
Anne.
Nanou.
Non, c'est Anne, c'est une diminutif.
Bah, Nanou, vous avez changé de prénom?
C'est ça, au départ, enfin, je suis née en tant que Claire, et ça va faire 3 ans où Nanou, qui était effectivement mon surnom, est devenu mon prénom officiel, et j'ai enlevé tous les autres derrière aussi.
Pourquoi vous avez voulu faire ça?
Parce que depuis l'âge de mes 6-7 ans, j'avais appris que c'est pas forcément mes parents qui avaient choisi mon prénom, c'était le médecin, juste parce que j'étais Claire. Et du coup, j'avais posé la question à ma maman de toute petite, on avait parlé effectivement que sinon ça aurait été Anna, et de Anna, on a effectivement eu le surnom Nanou, et du coup, depuis mes 7 ans, c'était ça. Ensuite, il y a eu des difficultés dans la famille qui fait que je me sentais pas forcément à l'aise avec mon prénom.
D'accord.
Et je m'étais renseignée, ça a mis du temps parce que il faut vraiment quand même du courage en se disant sachant que normalement c'est un surnom et pas un prénom.
Pas rien de changer déjà de prénom, j'imagine, hein. Et en plus Nanou, c'est original, ouais.
Oui, c'est ça. Du coup, maintenant, je suis fière. Je me dis, oui, c'est moi qui ai choisi mon prénom, etc. Et là, je sais que pas longtemps après, je crois que c'était même pas 10 mois après, il y a eu l'autorisation pour le changement de nom, où là, du coup, on peut récupérer le nom du papa ou de la maman. Et du coup, ça va se suivre. Et normalement, je récupérerai aussi le nom de la maman plus tard. Voilà.
Nanou, qui nous appelait depuis Nancy.
Yael. C'est mignon.
C'est mignon, ouais.
Ah ouais, c'est très mignon. C'est beau d'avoir un prénom qu'on aime, en fait.
En tout cas, clairement, Nanou a repris possession de son identité au travers de son prénom. Très clairement. Juliette.
Oui, tout à fait. Très clairement, elle a repris. Elle est totalement libre de le faire. Elle est majeure. C'est elle qui peut choisir et on lui donne le droit. Après, moi, je trouve qu'Anna, c'est joli.
Bon. Voilà. Merci à Nanou d'avoir été avec nous au 32-16. Catherine nous rejoint. Bonjour, Catherine.
Bonjour à toutes.
Bonjour Catherine, merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à dans la Nièvre, c'est ça?
Oui, c'est ça.
De quel côté?
Dans le Haut-Nivernais, plutôt vers Lyon.
D'accord, vous faites quoi dans la vie, Catherine?
Alors, je suis en retraite progressive et je vais être totalement à la retraite le 1er juillet.
Très bien. Bah, je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de retraite, Catherine, ça approche. Catherine, c'est votre prénom, enfin votre prénom d'origine ?
Oui, tout à fait. Moi, mon patronyme.
Ah, vous avez changé votre nom de famille.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma maman en 2016. Et pour lui rendre hommage, je me suis dit, toute ta vie, tu t'es appelée avec ton nom de famille, ton nom de naissance. J'avais envie de lui rendre hommage et de prendre son nom de jeune fille. D'abord, comme Guillemette le disait ce matin, pour une raison d'extinction ouais. du patronyme, parce qu'après moi, il n'y aura plus de personnes dans ma famille portant ce patronyme. Et aussi parce que ma maman, mon grand-père maternel était italien.
D'accord.
Donc c'est un nom de famille à consonance italienne. Et
mais alors, est-ce que vous avez réfléchi je ne sais pas si vous avez encore vos parents, Catherine.
Non, les deux sont partis.
Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'aurait pu ressentir votre papa ?
Oh, mon papa, je pense qu'il aurait été tout à fait satisfait d'avoir porté son nom pendant 57 ans. Non, je pense qu'il n'aurait pas été contre. Je pense que mes démarches, parce que moi j'ai fait le changement en 2016.
Ah oui, donc c'était avant la simplification de la loi.
Voilà, et ça a été très simple aussi. Alors je pense que la raison de la simplification a été que je n'avais jamais été mariée, que j'étais célibataire.
D'accord, ok.
Parce que je pense que si j'avais été mariée, ça aurait compliqué la chose. Là, je suis allée à la mairie. J'ai amené mon livret de famille.
Vous l'avez fait quand, ça ?
En 2016.
Ah oui, d'accord. Donc ça aboutit depuis. Enfin, vous avez entamé en 2016, ça aboutit quand ? Au bout de combien de temps ?
Oh, 10 jours après, j'ai ma nouvelle carte d'identité. Okay. Bon. Donc avec mon nom de naissance et le nom d'usage.
C'était à l'époque 2016 où encore les cartes d'identité, on pouvait les faire rapidement. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Mais est-ce que c'est pas compliqué? Dans la vie de tous les jours, de changer de nom de famille, quand vous signez des documents, quand on vous a toujours connu avec un.
Si. J'ai des problèmes parce que mon adresse mail est avec mon nom de naissance. Donc, avec certaines administrations, je ne sais plus si j'ai donné mon nom de naissance ou mon nom d'usage. Donc, ce que je fais maintenant, quand je dois signer un document officiel, je mets le nom de naissance et le nom d'usage.
D'accord.
Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Catherine qui nous appelait au 3216. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Paul, près de 150 000 personnes ont changé de nom, prénom depuis 2022. Est-ce que vous les comprenez ?
Bien, c'est très, très, très partagé. Vous répondez non à une courte majorité, seulement 51% d'entre vous.
Ah ouais.
Très joli prénom. Si Estelle était avec nous, elle dirait que c'est la marque d'erreur, évidemment. Allez, dans un instant, les notaires vous répondent. C'est dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et place aux notaires.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Tous les vendredis dans Estelle Midi, aujourd'hui c'est maître Barbara Thomas-David qui est avec nous. Bonjour maître.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Paris et vous êtes là pour répondre à la question de Jean-Marc. Jean-Marc, il a 64 ans et il nous a écrit ce message. Bonjour, je souhaiterais donner une petite somme d'argent à chacun de mes 3 fils pour les aider à se lancer dans la vie active. Ça c'est un bon papa. Comment cela doit-il se passer? Est-ce qu'il faut que j'en parle à mon notaire?
Alors, déjà, oui, c'est possible. L'idée, effectivement, c'est bien d'en parler à son notaire parce qu'on va essayer de regarder de façon générale comment on peut faire ça le mieux possible et civilement pour qu'il y ait une vraie égalité entre tout le monde.
Le mieux possible, c'est que de protéger chacun des 3 fils.
C'est ça.
Puis essayer de payer le moins possible de.
C'est ce que j'allais vous dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'aspect civil et puis également l'aspect fiscal. On a le droit d'être agile fiscalement pour payer le moins de droits possible.
Alors, comment ça marche?
Déjà, il faut savoir que lorsque vous donnez une somme d'argent de moins de 31 865 euros, vous êtes exonéré de droits de succession.
31 865 euros?
Par par parent et par enfant.
Ah d'accord, très bien.
Tous les 15 ans, ouais. Pour les enfants, il faut avoir plus de 18 ans et pour les parents, moins de 80 ans.
Ok.
Donc ça, c'est une première chose. Ça s'appelle le don manuel de somme d'argent.
D'accord.
Et puis, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle le présent d'usage. Parce que on parle là d'une petite somme.
Ouais, c'est ce qui est précis.
Le présent d'usage, on a le droit, tous les ans, de donner à ses enfants une somme qui correspond à un moment clé de la vie. Un anniversaire, un Noël, la réussite d'un examen.
D'accord.
Et ça, c'est en plus de ces fameux 31 865 euros qui sont donnés tous les 15 ans.
C'est combien cette petite somme ?
Alors, justement, l'administration fiscale ne répond pas. C'est en fonction du patrimoine de la personne qui donne. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le réflexe notaire. On va voir son notaire, qui connaît évidemment son histoire familiale, son patrimoine. Et votre notaire va vous conseiller sur ce qui est possible de donner dans une limite bien particulière, en fonction de son patrimoine. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner la même chose si on a un patrimoine, on va dire, peu important, que si on a des revenus...
Si j'ai des revenus très confortables et que... Très confortables. Et que je donne... Je peux donner 10 000 euros ?
À un moment, si les revenus sont...
Dans l'année, comme
oui,
ça ?
Si les revenus sont très confortables...
Oui, non, mais imaginons que,
et que
j'ai plusieurs maisons, que je suis un ancien entrepreneur, que je gagnais très bien ma vie, j'ai plusieurs voitures, pourquoi pas, un peu comme Perico Legas. Est-ce que je peux me dire, tiens, ben, voilà, c'est ton anniversaire, mon fils, je te fais un chèque de 10 000 euros.
Parfaitement, il faut que ça soit causé par rapport à un événement clé, un anniversaire. Voilà. Et il faut garder la preuve aussi, la petite carte d'anniversaire qui va bien, bon anniversaire.
Tu vois, Perico, voilà. Pourquoi tu ne veux pas donner à tes enfants comme ça ?
J'ai tout donné à mes enfants.
Bon, en tout cas, on a compris, c'est important d'aller voir son notaire parce que c'est vrai qu'on a du mal à estimer.
Bien
sûr. On a toujours peur d'être attrapé par la patrouille, comme on dit, par le fisc. Ce serait dommage de payer des pénalités. Voilà,
c'est dommage. Oui, l'idée, c'est d'être agile fiscalement tout en maintenant la paix des familles.
Merci beaucoup, Maître Barbara Thomas David, d'avoir été avec nous. Les notaires vous répondent, c'est tous les vendredis.
Avec plaisir.
Dans Estelle Midi. Dans un instant, on va parler immanquable, on va parler de l'actualité, puisque ce sont les actus qu'il ne fallait surtout pas manquer aujourd'hui, les immanquables, comme elles portent bien leur nom, Paul. On va parler de quoi notamment ?
Emmanuel Macron craint pour la survie de l'Europe, avant peut-être d'être une icône olympique. Elle est la reine du rap français. Aya Nakamura a tout raflé à la cérémonie des flammes hier. Et iriez-vous voir un nouveau film du Splendid ? On vous posera la question dans quelques minutes.
Allez, dans un instant, les immanquables avec Paul. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, midi 15h sur RMC et RMC Story. Dans un instant, les immanquables de Paul Lassen. Mais avant cela... On joue ensemble, Paul.
Oui, et on va jouer avec Linda, qui a donc envoyé chance au 7-32-16 et qui a été tirée au sort pour gratter un des tickets que tu as à côté de toi, Rémi, un des 10 tickets.
Bonjour Linda.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Linda ?
De Roquefort, dans les Landes.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis adjointe gestionnaire dans un collège.
Très bien. Linda, vous avez donc été sélectionnée.
Merci.
Donc il faut choisir un ticket. Je vous dis, il reste, écoutez bien, il reste le 1, le 2, le 3, le 6, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 ou le 13. Vous choisissez quel ticket ?
Le 3.
Le 3.
Donc, alors Rémi, il faut que tu décroches le 3 si tu y arrives.
Je décroche le 3, voilà. On est bien d'accord ?
Oui,
c'est bien le 3.
J'ai pris le 3. J'ai une petite pièce de 10 centimes qui m'a été généreusement confiée par Paul Lassen.
Tu sais quoi, je te la donne même.
Et on va gratter.
Ah non, je t'en prie.
On va gratter.
Linda, je vais gratter le ticket.
Une grande chance sur le
On est d'accord. Et on va voir ce que vous avez gagné.
D'accord.
Je vous rappelle qu'il peut y avoir jusqu'à 26 000 euros.
Oui, bah gratte d'abord, on va voir.
Tu grattes fort parce qu'on l'entend bien.
Oui. On est toujours 50-50, vous et moi dans l'affaire. Hein. Linda.
Bon, Linda. 50-50, bon.
Et on est toujours 50-50, vous et moi. C'est ce qu'on a convenu avant l'émission.
Linda.
Oui.
C'est pas 26 000 euros.
Oh.
Mais bon, ça aurait pu être 0 ou 10 euros.
Vrai. C'est vrai.
Alors, on est d'accord. C'est les jeux, c'est ce qu'on appelle un ticket à gratter.
Oh là là.
Linda, vous avez gagné 130 euros.
Ah, merci.
Bon, c'est sympa quand même, Linda.
Un bon
130
oui,
euros.
Super, super,
ça fait. Vous êtes en couple ou je sais pas ?
Je suis mariée.
Mariée, bah, hey, ça
un
fait
bon
un chouette resto.
Ouais. Oui, ça peut payer un petit resto, oui, merci.
Bon, avec plaisir, Linda. Merci d'avoir joué avec nous et on continue de jouer. Paul,
oui,
sur
absolument, ce n'est pas fini. Vous pouvez continuer à jouer. Les 26 000 euros n'ont pas encore été gagnés. C'est le moment pour vous de vous inscrire en envoyant chance au 732-16. Chance au 732-16. Vous avez à partir de maintenant 5 minutes pour vous inscrire. Et le prochain à gratter, à peut-être vous faire gagner, ça sera Vincent Moscato. Tirage au sort dans le SMS à 16h55.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables de Paul Lassalle. On commence, Paul, avec la crainte du jour.
Alors qu'il tenait un discours pour rappeler l'Europe à une union, alors que l'Europe s'effrite à ses yeux, Emmanuel Macron a émis des craintes quant au futur de l'Union européenne. Écoutez.
Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Les règles ont changé, a rajouté le président, et pour s'y adapter, l'Europe doit passer par la puissance, la prospérité et l'humanisme.
Perico Legas, l'Europe est-elle en danger ? Alors, dit Emmanuel Macron.
Déclaration très importante, toujours très bien présentée, courageuse du CID. C'est quand même un constat d'échec de ce que l'Europe est devenue ou n'est pas devenue. Il a le mérite de le reconnaître. Voilà. Il a utilisé des termes qui, dans la bouche d'un homme politique, leur évalue il y a 5 ans l'anathème d'anti-européen. Donc, il reconnaît qu'il y a eu des lacunes. Voilà. Et moi, je lui rends grâce. Je pense qu'il est sincère. Alors, on a envie de dire, Monsieur le Président, il y a d'autres personnalités qui, depuis Philippe Séguin, ont prévenu qu'on risquait d'arriver en Europe dans ces impasses, dans ces lacunes, dans ces
défaillances. C'est étant dit, mais à l'époque où Philippe Séguin parlait, il y avait encore la guerre froide, mais Non, mais là, on a quand même un.
Prends ça comme exemple.
On a quand même un État.
Il y en a eu plein d'autres depuis.
On a quand même un État hyper puissant, la Russie, qui a attaqué une nation qui ne fait pas partie, un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est en Europe, l'Ukraine.
Il n'a pas parlé que de ça.
Ouais, mais
parlé que de ça. C'est là ce dont qu'il a évoqué, c'est pas que la guerre en Ukraine. Il a reconnu que l'Europe n'est pas terminée, elle n'est pas finie, elle n'est pas aboutie. Elle a des points faibles et elle a des incohérences. Donc on va les corriger. Et en tant que tous, on est tous européistes, à part quelques isolés qui n'y croient pas du tout. C'est la seule solution face au bloc chinois, au bloc américain et à Russie. Il faut faire l'Europe. Il va peut-être se donner les moyens. Alors, il est seul, on est la seule puissance nucléaire sur l'Union européenne. Alors, on va peut-être revoir avec les Anglais une union militaire. En tout cas, s'il met en application, lui, président de la République française, ce qu'il a fait là, ce qu'il a conclu, son analyse, s'il convainc les 27 autres de la prendre en considération, ça va tout changer, mais je rends juste hommage à ceux qui avaient prévenu qu'on allait en arriver là, qu'ils se sont pas battus pour rien, et qu'on n'était donc pas si européistes, anti-européistes que ça, en constatant il y a 5, 6 ans ou 10 ans, ce qu'il vient lui de constater dans le discours d'hier, qui est un discours historique, exemplaire. C'est toujours du Macron. Est-ce qu'il va le faire?
Pour moi, en fait, Emmanuel Macron a un bilan désastreux dans son propre pays, et donc ne peut forcément pas avoir un bilan
c'est pas le sujet,
quelconque sur l'Europe. Il perd en influence. En crédibilité et en influence. Et on l'a vu, d'ailleurs, quand il est allé bêtement dire qu'il n'était pas contre l'envoi des troupes en Ukraine et qu'il s'est fait désavouer par tous les représentants d'Europe à la fois. Donc, je suis désolée, Macron, il peut s'en vouloir à lui-même parce que la France, évidemment, a un rôle majeur à jouer dans l'Union européenne et qu'elle perd en influence petit à petit et qu'il en est partiellement responsable.
Je regrette que cette vision de son discours, tu vois.
Alors
qu'il a fait une avancée énorme.
Laquelle ?
De reconnaître que l'Europe doit être faite et qu'il faut de la protection, qu'il faut de la solidarité. Il a fait l'éloge du protectionnisme sans le citer comme ça. Il a dit qu'il faut se resserrer.
Il ne
faut pas défendre les marchés.
À part les belles phrases, les belles formules, l'Europe est morte, toujours les éléments de langage qui claquent, qui vont être repris non-stop par les chaînes d'infos en continu. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme mesure ? Qu'est-ce qu'il y a pour ce qui soucie, inquiète le plus les Français ? Le pouvoir d'achat, l'environnement. Ce que j'ai vu.
C'était sur l'Europe, là.
On est sur l'enjeu européen, on n'est pas sur la politique intérieure.
Et alors ?
Eh bien, il a le droit de s'exprimer sur l'enjeu européen qui est essentiel pour nous.
Oui, mais l'enjeu européen, c'est aussi le pouvoir d'achat des Français. C'est aussi une politique environnementale au niveau européen. Moi, ce que j'ai vu hier. c'est quand même un discours qui a duré 2 heures en plein milieu de la journée. Il faut aussi avoir que ça à faire aussi, hein, de faire ça. Moi, j'ai vu un chef de parti. Moi, j'ai vu un directeur de campagne qui faisait un meeting dans le cadre des élections européennes parce que cette tête de liste aujourd'hui est complètement nulle. Elle est complètement dépassée par les événements et qu'on a un Rassemblement National qui a 30%. Voilà, moi, ce que j'ai vu hier.
Du président de la République française. Et je
moi, j'ai pas vu un président de la République.
Certains partis ont même souhaité. Exprimer leur vœu, en tout cas, que le temps de parole d'Emmanuel Macron soit décompté de la campagne.
Oui.
Allez, le sacre du jour.
Hier soir se tenait la cérémonie des Flammes, grande fête de récompense du rap français. Et la grande gagnante de cette cérémonie, eh bien, c'est elle. Aya Nakamura a été sacrée artiste féminine de l'année, mais elle a aussi remporté un prix pour le nouvel album pop de l'année et une autre pour son rayonnement à l'international, un succès mondial justement qui pourrait ou pas l'amener à se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'artiste qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet à l'issue de la cérémonie.
Bon bah clairement, est-ce que il fallait peut-être pas ça, mais après ce qui s'est passé hier soir, tout ce que tout le monde dit, etc., c'est devenu imparable.
Et elle a été défendue par Omar Sy.
Ouais, Aya Nakamura. Aya Nakamura.
Ah, si elle est défendue par
Omar Sy. Est-ce que c'est imparable maintenant? Aya Nakamura chantera lors de la cérémonie des JO.
Bah moi je pense que c'est le but, mais elle ne chantera pas seule.
Ah non.
Ce sera pas la seule.
Ah, c'est pas un concert de Aya Nakamura.
Non, mais voilà, il y aura d'autres artistes. Écoutez, moi j'ai envie de dire. Bravo à Aya Nakamura pour la cérémonie des flammes, c'est entièrement mérité. Je n'ai rien spécialement contre Aya Nakamura. Après, c'est vrai que moi j'ai vu une partie de sa performance hier et je me suis dit dans ma tête, effectivement, j'avais pas tort de dire que j'avais pas vraiment envie de voir cette représentation là au JO. Ouais. Maintenant, je vais m'en remettre parce que c'est nul.
Oui, ça sera.
C'est voilà.
Mais ça sera pas la même chose si elle est à la cérémonie d'ouverture des Jeux que ce qui s'est passé. Mm-hmm.
Voilà. Mais moi, je pense qu'elle va être
la scène hier.
En plus, elle va être. Alors maintenant, elle a une pression incroyable parce qu'elle est tellement attendue. Elle va chanter du Edith Piaf a priori. Donc la pression.
La pression,
est
on a l'habitude de la voir quand même. Je pense quand on.
Ah bah là, non, ça, là, c'est un certain type de pression quand même.
Ouais, mais quand on est une artiste de ce niveau-là, je pense que sincèrement.
En tout cas, sincèrement.
J'irais la pression.
Sincèrement, j'aimerais vraiment que ce sujet soit clos parce que j'en peux plus.
Ah oui, c'est
je crois que là, j'ai atteint mon.
Moi, c'est pas du tout ma came de musique. Mais alors, moi, je vraiment, j'accroche pas du tout.
Ouais, enfin, elle chante du Piaf. Elle a une très belle voix. Si elle chante du Piaf, ça.
Elle chante pas bien.
Allons-y, ça y est, mais j'aimerais pas en faire. Enfin, je veux dire,
vous l'avez jamais entendu. Entendu chanter sans autotune. Hein. Moi, je suis très inquiète. Voilà, je le dis.
Ah oui, alors déjà, il y a
ça. Je suis inquiète.
Puis il y a eu aussi la petite vidéo.
Parce que hier, elle était sur le plateau des Flammes, full autotune. Hein.
Autotune, rappelle pour ceux qui ne
savent
pas.
Alors, autotune, c'est une.
C'est une transformation.
Voilà, quelque chose qui transforme la voix et qui vous permet d'atteindre des notes justes, même quand vous chantez faux.
Mais qu'est-ce qui les empêche de le faire
parce que ça donne un style de musique très particulier. On ne peut pas chanter du Edith Piaf avec du autotune.
Je ne sais pas comment dire ça, mais la voix est un peu.
Elle est déformée, quoi.
Voilà.
Donc, moi, elle n'est même pas capable de faire un live aux Flammes hier sans un micro complètement visé à l'autotune. Je suis inquiète pour elle. Voilà. Et pour
l'image
qu'on va.
Je n'ose plus. Oh non, d'abord, une fois, je l'ai écorché sur le nom.
Aya Nakamura.
Oui, mais j'avais fait exprès pour, voilà, c'est passé dans notre émission d'une autre chaîne comme étant, voilà, comme si j'avais fait exprès. Terminé. Je n'ose plus, voilà, on est dans un pays où je j'ose plus dire ce que je pense ni ce que je crois.
Arrête, toi, Péricot.
Oui, j'ai un respect profond pour cet artiste. Je partage pas le fait qu'elle soit dans cette situation-là et qu'on ait fait ce choix-là que je respecte pour autant aussi. Donc voilà, je suis dans le respect et je ferme ma gueule. Voilà, je regrette de devoir dire ça parce que j'ai pas peur de parler.
Bah oui.
Mais là, les enjeux sont tels. Dès qu'on dit un mot, on est tout de suite sur la dérive, avec des propos récupérés, réinterprétés, surinterprétés ou mal intentionnés que, eh ben, je ferme ma gueule.
Moi, je trouve que Macron l'a jeté au loup.
Je regrette que ce débat, soit pas plus ouvert. Et j'avais.
Mais il est ouvert quand même.
C'est une histoire de goût et de couleur.
Mais je trouve que Macron l'a jeté au loup parce que il savait que c'était une provocation.
Mais c'est vrai artiste.
Non mais c'était pour Juliette.
Il savait que c'était une provocation. Il savait que ça allait créer un débat monstrueux parce que Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf au JO, c'est pas anodin. Hein, ça fait réagir. Et donc il l'a jeté dans la fosse au lion. Et il l'a laissé se faire
laminer. C'est vrai qu'au moment
où ce soit la croix sur le dôme des invalides qui était passé dans le dessin là, on ne peut plus rien dire. Donc que ça se finisse, terminé, et puis vivement septembre qu'on reprenne notre bicyclette et notre
bicycle
pour aller à l'école.
Le comeback du jour.
et cette question. Et si l'on retrouvait la troupe du Splendide bientôt dans les
trop
salles
sympa.
De cinéma?
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Interrogé à l'occasion des 75 ans de Paris Match, la bande mythique du cinéma français n'exclut pas de se réunir à nouveau, faire des choses ensemble, oui, mais pas les bronzer, dit Michel Blanc. Ah. Un avis partagé par tous les autres comédiens. Ce qui serait chouette, c'est que quelqu'un nous écrive un scénario qui nous convienne, ajoute Marianne Chazelle.
Trop sympa.
Blanc,
moi je suis fan absolu. Les bronzés
font du ski. On est très 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 nombreux à
Père Noël.
Je rappelle juste factuellement
10 fois, 20 fois
factuellement, alors c'est pas je crois que c'était pas tout à fait l'équipe du Splendide, mais on retrouve l'ermite, on retrouve Junior, on retrouve le papy fait de la résistance.
Il est
passé dimanche soir dernier sur France 2, ça a fait
1,6 million.
Ça fait un carton, c'était l'audience, la première audience de France.
Donc
ceci étant dit, moi je suis fan absolu.
J'adore.
J'ai même eu l'honneur de jouer la pièce Le Père Noël est une ordure.
Ah bah si.
Et
tu faisais quel rôle? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre.
Pierre, évidemment.
Tu faisais Pierre,
c'est cela.
Ah, je t'aurais vu en Père Noël.
Ouais.
Et ceci étant dit, on a eu l'expérience. Vous savez parfois.
On va tirer l'ermite.
Les bronzés 4.
C'était pas. Ouais.
Alors c'est ce que j'ai dit.
Est-ce qu'il y a.
Non, les bronzés 3.
Je crois que c'est les 3.
Excuse-moi. Les bronzés font du
sport. On est tous amoureux des bronzés et du sport.
Mais les bronzés 3, c'était dur.
On se rappelle des bronzés 3. Et là, même s'ils essaient de faire quelque chose qui n'est pas les bronzés, ils essayeront quand même de nous rappeler aux bronzés. Et je pense que ce sera difficile de faire quelque chose.
Je les regarderai même en déambulateur avec des projections s'il faut.
C'est vrai.
Et même Gaga, ils seront géniaux.
T'as vu qu'en plus, à chaque diffusion,
ils sont pas encore tous,
à chaque fois, on redécouvre un détail.
Ouais. Alors, il faudrait qu'ils cassent avec l'image du Splendide.
Qui faisait Marianne Chazelle dans ta pièce?
C'était Marie, une comédienne.
Elle n'a rien senti non plus, c'est ça.
Pardon?
Elle n'a rien senti non plus.
La garden party du jour.
Oui, ce mercredi, dans la mairie du 7e arrondissement de Paris, a eu lieu un apéro spécial organisé par la ministre de la Culture Rachida Dati. Un apéro canin. Oui, les habitants du 7e arrondissement ont pu se réunir avec leurs compagnons à quatre pattes. Des chiens de toutes races ont pu profiter du cadre exceptionnel de l'hôtel particulier du 7e arrondissement qui fait office de mairie pour courir, jouer et donc prendre l'apéro. Petit point notable, une invitée de marque était présente. Il s'agit de Volta. Volta, voilà, on l'entend, la chienne du Premier ministre Gabriel Attal. Je vous rappelle, d'après les informations du Monde, il y a quelques semaines, Rachida Dati avait dit ces mots à Gabriel Attal: je vais transformer ton chien en kebab. Des propos jamais démentis, mais à en croire les photos publiées par Rachida Dati elle-même, la hache de guerre semble être bien et bien
lancée. Il avait coupé dans son budget culture. Et je crois que c'est
200 millions.
200 millions. Je crois que c'est un texto qu'elle lui envoie: je transforme ton chien en kebab. Et elle attendait que la flamme
olympique arrive. Ceci étant dit,
c'est ridicule. De l'apéritif.
Non, parce que
l'apéritif
c'est un arrondissement très particulier.
Ah oui,
Edouard Frédéric Dupont, quand fut le député très à droite, on l'appelait député des concierges parce qu'il faisait les concierges. C'est peut-être devenu l'arrondissement des chiens, des toutous à sa mémère qu'il faut. Voilà, claque avec le caniche nain, avec le manteau
de
cuir.
Non, mais ça va, attends,
c'est
ça. Faut pas déconner non plus, on n'est pas là.
Ça mange pas de pain,
c'est la mairie. Elle est ministre, on n'est pas là pour faire n'importe quoi.
Le toutou.
Franchement, on a trop de combats.
Le toutou. Puis en plus, il y a le chien.
On doit lâcher l'affaire sur l'apéritif canin.
Mais
franchement, laisse la faire son apéritif canin avec les habitants du 7e.
À faire ça, elle
il y a vraiment plus grave dans la vie.
Évidemment, qu'il y a plus grave. Mais si tu veux, ça apporte de la légèreté. Alors que là,
elle le fait en tant que maire déjà, pas en tant que ministre.
Moi, je lui passe.
Avec les habitants du 7e. Et franchement, voilà, moi, j'abandonne ce combat.
Non,
je la laisse faire son apéritif canin avec plaisir.
Non, moi je lui passe. Alors d'autres personnes, j'aurais pas passé à elle, je lui passe.
D'accord. Bon,
non, allez, elle est quand même.
On lui passe.
Elle me fait penser à toi quelquefois. Cette énergie, cette pugnacité.
On termine avec le voyage du jour.
Oui, Paul. Je retrouve la
page. Un voyage chez Paul.
En enfer pour 300 passagers d'un vol Air France reliant Osaka
donc déjà
à Paris.
Voilà, distance déjà.
Osaka-Paris,
Japon.
Ah oui, donc c'est vrai.
Suite à l'apparition, je cite, d'une odeur de chaud, c'est comme ça que ça a été décrit par les passagers, l'équipage a décidé de dérouter l'avion et de le faire atterrir à l'aéroport de Bakou, en Azerbaïdjan. Problème, les autorités du pays exigent un visa pour débarquer. Les passagers se sont donc retrouvés bloqués en zone de transit et ont dû dormir sur place. Un des passagers a publié des photos de l'attente de plus de 24 heures dans l'aéroport, dénonçant le fait de ne pas avoir été ni nourri ni bien accueilli. et dénonçant également un avion Vétus, puisque d'après l'enquête des passagers, l'appareil vole depuis 22 ans.
C'est ce qu'on appelle...
C'est un Boeing ou pas?
Air France.
Alors, oui. L'avion.
Ça fait 22 ans cet avion est dans la flotte d'Air France.
Les enfants, c'est ce qu'on appelle un voyage à bas coût.
Très sérieusement, ce type de cauchemar comme ça.
Comme la chaux?
De chaux chaleur. Il n'y avait pas les cabines du train allemand.
Ça peut arriver n'importe où, mais encore une fois, on parle d'une compagnie. Enfin, c'est
oui, Air France, oui, dans la fin, qu'attends, effectivement.
Le prix aussi de.
Surtout pour un long courrier.
Et encore eux qui ne sont pas pris un missile, parce qu'en Azerbaïdjan, en ce moment, c'est un peu tendu. L'Ukraine n'est pas loin. Ils reviennent de loin. Ils sont rentrés à la maison. Qui s'estiment heureux? Voilà, il n'y a qu'à pas aller à Osaka, on n'a qu'à aller à Gennevilliers ou à Saint-Paul-de-Vence.
On va terminer là-dessus. Voilà. Rappelle-nous ta citation, ta fameuse citation sur le tourisme, s'il te plaît, Péricourt, on terminera là-dessus.
Selon Jean Missler, le tourisme est une industrie qui consiste à déplacer vers des endroits qui seraient mieux sans eux, des gens qui seraient mieux chez eux.
Merci beaucoup, Péricourt.
Ça fait réfléchir.
Ah, bah, bien sûr. Vous avez le week-end. Vous rendez votre copie lundi. Lundi, lors du retour d'Estelle Midi à partir de midi avec Estelle Denis, évidemment. En attendant, c'est le Super Moscato Show, comme tous les jours, sur RMC avec Vincent Moscato. Et donc, nous, on se retrouve lundi, Estelle Midi, comme tous les jours, midi, 15h sur RMC et RMC Story. Bon week-end à tous.
Vincent.
Au revoir,
RMC, midi 15h, Estelle Midi.